Hello à toutes, bienvenue sur C'est qui la bosse, le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Je suis Mélodie Madard et j'ai la chance de recevoir chaque semaine des femmes passionnantes et inspirantes qui viennent nous livrer leur parcours hors du commun. Qu'elles fassent bouger les choses, soient à la tête de leur propre entreprise ou soient reconnues pour leurs talents aiguisés, elles ont toutes réussi grâce à leur conviction, leur ambition, leur force et audace, à aller au bout de leurs rêves et nous livrent aujourd'hui leurs précieux conseils. Mais n'oubliez surtout pas, c'est qui la bosse, c'est vous, et ça commence maintenant.
Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir une femme aux mille et une facettes. Comédienne, scénariste, réalisatrice, humoriste, chroniqueuse et créatrice de contenu, elle n'a pas fini de nous surprendre, c'est bien la célèbre Marion Séclin. Et en plus d'être une jeune femme talentueuse, Marion est aussi engagée pour la cause féministe. Elle se rend très vite compte, au début de sa carrière, de la différence de traitement entre les hommes et les femmes et qu'elle va donc devoir se battre pour avoir les mêmes chances de réussite. Telle une véritable battante, elle tire justement sa force des challenges qui se hissent devant elle et qu'elle se lance aussi à elle-même. Et comme elle le dit si bien, personne ne t'attend nulle part, c'est à toi de te donner les moyens de réussir. Authentique et sincère, elle revient alors sur l'ensemble de son parcours et nous livre ses meilleurs conseils pour se faire confiance, donner vie à ses envies et sans cesse se renouveler. Belle écoute à vous.
Hello Marion, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Salut, ben merci de m'avoir invitée.
Je suis vraiment ravie de te recevoir sur le podcast C'est qui la bosse. Je t'ai découvert à travers la vidéo Mon corps, ce héros qui m'a bouleversée il y a quelques années. Donc, je suis ravie que tu nous parles un peu plus en profondeur de toi et de ton parcours.
Oh, bah merci. J'avoue que c'est aussi une de mes vidéos préférées, même si avec les années, forcément, si je devais la refaire, je la referais différemment. Mais je suis très contente que ce soit via ça
et elle pas était via hyper avant-garde.
Notre bêtise. Ouais. Ouais, et en même temps, quand je l'ai fait, ça me semblait être pas tellement... J'avais l'impression de ne pas réinventer le fil à couper le beurre, tu vois. J'avais vraiment la sensation que juste j'avais cette vérité à dire et j'avais un média pour le dire. Donc, je l'ai fait sans trop réfléchir à l'impact. Et surtout en ayant la sensation que j'allais tellement dans un truc intime que peut-être que je n'allais pas réussir à toucher les gens. Et en fait, c'était une belle erreur puisque c'est justement en allant dans le très intime que tu finis par aller dans le très universel.
Complètement. Écoute, je commence toujours ce podcast en remontant rapidement aux prémices de la vie de mes invités. Je trouve que c'est aussi assez révélateur de ce qu'on est aujourd'hui. Ouais. Alors, petit retour vers le passé, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Est-ce que tu avais des rêves, des passions, des ambitions?
Quand j'étais petite fille, j'avais pas particulièrement d'envie de métier. Je sentais bien quand on me posait la question « ce que tu veux faire plus tard ?» que c'était vraiment une question rhétorique. Le souvenir le plus clair que j'ai, c'était que j'ai voulu être architecte pâtissière parce que j'étais persuadée que pour faire des pièces montées, il fallait quand même avoir des notions d'architecture, que tu ne pouvais pas globalement faire des gâteaux en hauteur si tu ne connaissais pas un petit peu les lois, les règles. Vraiment.
D'accord. J'allais te demander quel est le rapport, mais voilà. Je dois me comprendre.
C'est ça. Moi, j'avais vu des pièces monter, je ne sais plus où, et je m'étais dit, putain, il faut que je fasse ça, c'est super. Mais ça me semblait évident que pour construire des plans de gâteaux en hauteur, il fallait un petit peu s'y connaître en physique. Et donc, j'étais persuadée que c'était un métier. Et ensuite, je n'ai jamais trop été embêtée par ces questions-là. Puisque très tôt, à l'âge de 13 ans, quand on m'a dit, même pas 11 ans, attends, quand t'es en 6e, t'as 11 ans, c'est ça?
Ouais.
À l'âge de 11 ans, en 6e, j'ai su que je voulais être comédienne. Je voulais être comédienne coûte que coûte. Et ça m'a pas lâchée.
À et aucun comment moment, tu ça l'as su?
On était en train de faire Le médecin malgré lui de Molière en cours de français. Et on avait un tout petit peu de pratique, mais quand je te dis un tout petit peu de pratique, c'était genre on lisait et puis on avait chacun une scène à apprendre qu'on allait faire, c'est un grand mot, devant la classe. Et je me suis rendu compte au bout de la première journée que je connaissais le texte de tout le monde et qu'en fait, j'étais extrêmement excitée d'aller en cours de français quoi, pour ça. Et je me suis dit, ok, je crois que je veux être comédienne, c'est sûr, je veux faire ça. Et ça ne m'a pas lâchée, je n'ai jamais été emportée par autre chose autant. Et pourtant, j'étais pas du tout la petite fille, tu sais, qui monte sur des tables, qui fait des blagues, que tout le monde trouve formidable, pleine de charisme. J'étais vraiment plutôt et timide et assez réservée. Non pas parce que j'étais timide, mais parce que je me sentais pas forcément à l'aise avec plein de gens. Et pourtant, ça m'a pas lâchée jusqu'à ce que je termine mon bac. Donc, j'ai fait une option théâtre. Ouais. Et j'ai fini par intégrer une école d'art dramatique parce que c'était vraiment que ça que je voulais faire, quoi. Donc, jusqu'à encore aujourd'hui, ça ne m'a pas lâchée. Je dis encore aujourd'hui parce que j'ai l'impression d'avoir la même passion, la même fougue, si ce n'est encore plus, parce que maintenant, je sais quels sont les bons et les mauvais côtés de ce métier, tu vois.
Donc, du coup, à 11 ans, tu découvres ta passion pour le métier de comédienne. Finalement, tu rentres dans une école d'art dramatique.
Oui.
Et ensuite, quelle est la suite de ton parcours? Peut-être rentrons aussi peut-être dans le vif du sujet, ton travail, tes vidéos, ton contenu, ton métier. Comment tu t'es dit, bon, bah, c'est parti, je me lance, je vais commencer à faire des vidéos, peut-être dans un premier temps sur YouTube. Parle-nous un peu de tes débuts, peut-être au studio Bagel aussi, je ne sais pas.
Au tout début, j'étais encore en cours d'art dramatique quand j'ai commencé à rencontrer, parce qu'ils étaient assez accessibles, les gens qui faisaient des vidéos sur Internet à ce moment-là. Jérôme Niel, les Norman Tavo, toute cette clique-là. Et comme j'étais comédienne et que je savais faire ce métier-là, j'ai joué dans leurs vidéos qui étaient très amateurs dans le sens où bah, c'était des tournages avec une seule personne, avec un petit boîtier, rien de bien formidable, mais je jouais au moins et c'était formidable. De fil en aiguille, j'avais contacté le patron du site mademoiselle.com, Fabrice Florent, à qui j'ai proposé de faire un street style. Et puis en fait, je lui ai dit non mais attends, j'aimerais bien faire plein d'autres trucs. Je sais pas comment ou pourquoi, je me suis dit c'est un truc sur lequel j'aimerais bien passer du temps. Et donc j'ai créé une série de tutoriels de la vraie vie, des meufs qui galéraient dans la vraie vie, qui n'avaient pas particulièrement d'argent. Et surtout, c'était une époque où les tutos, tu pouvais regarder un tuto pendant 45 minutes d'une meuf qui se faisait un smokey eye. Je ne sais pas pourquoi, en montage, on était vachement moins fort. Moi, je ne voulais pas faire des tutos de maquillage sortis de leur contexte. Et donc j'ai créé la série MacGyver et c'est au même moment où j'ai commencé à rentrer au studio Bagel, justement parce que j'avais ces skills de comédienne et où j'ai commencé à jouer dans des fictions et à me rendre compte que sur internet on pouvait faire ce qu'on voulait et c'était assez pratique. Et il m'a fallu encore quelques années avant que je me dise attends, mais j'ai le droit aussi de faire des trucs moi toute seule, pour moi, avec moi, où je suis je suis le contenu, je suis la créatrice, etc. En parallèle, comme j'étais comédienne, je passais pas mal de castings et je trouvais toujours les rôles pour lesquels je passais des castings vraiment nuls à chier. C'était toujours des intérêts amoureux hyper lisses et pas très intéressants qui, dans la fiction, ne servaient à rien ou étaient victimes d'un meurtre. Parce que beaucoup, j'ai passé des castings pour des petits rôles dans des fictions de la télévision. Et dans les séries policières, les femmes meurent énormément. Vraiment, il faut savoir que tu as une chance sur deux quand tu veux jouer dans une fiction de savoir que c'est toi qui vas crever. Voilà. Je me suis dit, c'est fou que personne n'ait encore réussi à écrire des rôles féminins plus intéressants que ça. Et là, je me suis mise à écrire. Et un peu après, je me suis mise aussi à réaliser parce que je me disais, c'est fou qu'un truc soit bien écrit mais ne traduise pas ce qu'on lit. Et voilà. En fait, à chaque fois que j'ai voulu faire un nouveau truc, c'était parce que j'étais moi-même un peu frustrée de la manière dont je voyais que ça arrivait et où le rendu était toujours très loin de ce qu'il y avait sur le papier.
C'est vrai, c'était complètement une de mes questions. C'est justement à quel moment, tu vois, tu prends conscience que tu peux aussi toi-même te lancer seule. Et par seule, j'entends justement être un peu le personnage principal de tes vidéos. Notamment, tu disais tout à l'heure qu'avec... toute la team de YouTube, tu vois, tu les accompagnais dans leurs vidéos, mais qu'à un moment donné, tu t'es aperçu que toi aussi, tu avais des choses à dire, que tu pouvais mettre aussi en valeur des sujets qui te tiennent à cœur et que tu arrives aussi à faire passer des véritables messages avec l'humour, notamment.
C'est qu'en fait, c'était super de jouer avec d'autres gens sur YouTube et de participer à leurs projets, mais j'avais quelque chose au fond de moi qui disait... C'est pas là qu'on veut aller, quoi. C'est super de participer et d'aider les autres, mais moi j'avais des choses à dire et notamment j'avais envie de parler de féminisme et j'avais toujours l'impression que où que j'aille, c'était un peu le truc qui faisait rouler des yeux, quoi. Et genre, ah non, elle va encore nous faire chier avec son féminisme. Et moi j'étais là, mais non, c'est pas mon féminisme, ça s'appelle la survie de l'espèce. Ça s'appelle moi survivre en tant qu'individu avec des droits similaires. Et ça me semblait tellement indispensable que j'ai dû attendre de me sentir prête aussi et de me sentir assez légitime parce que je vais pas te mentir, il y a eu systématiquement une discussion interne entre moi et moi-même autour de ma légitimité et de ce que j'avais à apporter au monde et de est-ce que j'allais oser et est-ce que j'avais ma place dans ce métier. Mais finalement, quand ça m'a semblé être indispensable parce que c'était mon moteur et que c'était viscéral et que j'avais besoin de parler de féminisme et d'égalité et de proposer autre chose, là, je me suis lancée et je me suis dit, en fait, tu sais quoi, si ça intéresse des gens, c'est super, si ça intéresse personne, on s'en fout, quoi. et où j'avais plus cette espèce de pression à la réussite totale ou au buzz, parce que c'était quand même une époque où on disait encore faire le buzz, et où c'était ça que les gens recherchaient, quoi. On recherchait à faire le buzz, on cherchait le truc le plus putaclic pour faire le buzz. Une fois que j'ai été débarrassée de ça, si tu veux, je me suis dit, bon, bah, go.
Mais justement, tu parles du féminisme. Je reçois beaucoup de femmes dans ce podcast et à travers aussi nos interviews vidéo. Et j'en entends pas mal aussi qui disent, je ne suis pas féministe, ou alors je ne suis pas le féminisme qu'on voit aujourd'hui. Si tu devais lui donner une définition, ça serait laquelle ?
Le féminisme, j'aime bien la définition du dictionnaire, c'est l'égalité économique, politique, culturelle et sociale entre les hommes et les femmes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui a un double standard permanent sur tout, et c'est très difficile d'être une femme, je trouve, encore aujourd'hui. C'est ça qui, moi, m'a marquée quand je suis arrivée dans le milieu professionnel, c'était à quel point j'étais relayée à des rangs, à des rôles vraiment inutiles, à quel point j'étais systématiquement sexualisée, ou à quel point on me faisait vachement moins confiance de prime abord, tandis que j'avais des copains à moi qui avaient beaucoup moins d'expérience, beaucoup moins d'humour, à qui on faisait confiance les yeux fermés. Et tout ça, c'est des différences de traitement qui sont de l'ordre du double standard et qui sont très, très ancrées dans beaucoup de milieux. Seulement, quand tu ne veux pas les voir, tu peux ne pas les voir. Quand tu refuses de les voir, quand tu n'as pas envie de voir ça, parce que c'est assez violent, en fait, de s'en rendre compte. Puis, une fois que tu t'en es rendu compte, ben, tu ne peux plus ne pas le voir et tu le vois partout. Et j'ai jamais cherché à faire quoi que ce soit d'autre que juste avoir la même chance que mes camarades masculins. Avoir les mêmes laissés-passer, en fait, pour avoir le droit de faire les mêmes choses. Et j'entends encore aujourd'hui qu'il y a des gens qui disent « je ne suis pas féministe » parce que ça fait peur, parce que les médias montrent une image du féminisme qui est absolument fausse et dramatique. Mais globalement, si tu vas lire le fond du fond de ce que c'est que le féminisme, ben, j'espère qu'on l'est tous, quoi, parce que sinon, ça veut dire que le monde, il est vraiment plein de personnes qui sont activement contre l'égalité, quoi. Parce que c'est simplement une question d'égalité, une question de liberté. Et puis, sur YouTube, principalement, c'est un sujet que tu es obligé d'aborder, parce que si moi, je fais une vidéo qui parle de sexualité, je vais être immédiatement démonétisée, tandis que les mecs qui font des vidéos qui parlent de sexualité ou de branlette ou de je ne sais quoi, eux, ils ne sont jamais démonétisés. C'est un double standard qui est partout, tout le temps.
Et comment tu as réussi justement à t'imposer dans ce milieu qui est assez masculin ?
Ben, je ne sais pas trop. Je pense que j'ai juste fait les choses et que je n'ai jamais accepté. À partir du moment où j'ai compris ce qui allait faire pencher la balance, ne serait-ce qu'en termes d'exemplarité, je me suis dit j'ai plus jamais voulu moi m'adapter, tu vois. Parce qu'il y a une différence entre s'adapter à un fond et à un discours et s'adapter parce qu'en fait on te demande de rester gentil dans ton coin et de fermer ta gueule. Et à partir du moment où j'ai compris que j'allais pas vouloir fermer ma gueule et rester gentil dans un coin, bah, je l'ai plus fait du tout parce que ça me coûtait trop. C'était pareil vis-à-vis des marques et vis-à-vis des gens qui m'embauchaient. C'est-à-dire que si on venait me reprocher le fait que bah, j'avais le discours que j'avais, que ce soit sur le féminisme ou sur le fait de ne plus rendre, enfin de détabouiser les problématiques du monde, si on me disait c'est chiant en fait, parce qu'on préférerait que tu te taises et que tu sois bien gentil, je disais ouais, mais dans ce cas, ça me coûte trop de faire ça, quoi. Là, ça me coûte trop de faire semblant juste pour vous faire plaisir. Donc, je pense que c'est à travers toutes les choses que j'ai refusé de faire que j'ai réussi aussi à m'imposer et à dire surtout, moi, j'ai pas besoin de quiconque pour faire des choses. Oui, effectivement, j'aimerais bien être intégrée au groupe. J'aimerais bien me sentir moi aussi inclus dans le boys club, qu'on rigole à la moindre de mes petites pirouettes ridicules et qu'on me dise à quel point je suis vraiment un mec super, sauf que ça n'arrivera pas. Et en plus, plus je réfléchis, plus je me dis, bah, prendre cette voie qui avait l'air plus compliquée, celle de dire, attendez, moi j'ai une technique et je vais faire ma technique parce que je la trouve mieux, ça a finalement été beaucoup plus payant que si j'avais dit, ah, je vois comment il faudrait que je fasse pour être acceptée par vous, voilà vos règles, je vais les reproduire, ça va être super.
Très clair et très intéressant et très joliment dit aussi. Tu parlais justement un peu de s'écouter soi-même et de ne pas vraiment écouter ce que disent les autres. J'aimerais bien parler aussi un peu du revers de la médaille, hein, des réseaux sociaux. D'ailleurs, tu t'es, il y a quelques années, auto-proclamée championne de France de cyberharcèlement.
Oui.
Tu fais du contenu qui est jugé, parfois polémique. Tu touches souvent du doigt des sujets sensibles. Tu mets en valeur des sujets qui sont parfois tabous et donc qui, par définition, créent beaucoup de débats. Alors, j'aimerais savoir comment tu fais justement pour gérer ce déferlement de haine qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux. Comment tu gères les haters
Au début, quand c'était hyper, hyper fréquent, quand c'était vraiment au cœur de mon cyberharcèlement, j'avoue que je gérais en ignorant autant que je pouvais, en n'allant pas sur les réseaux, en ayant laissé des gens gérer mes réseaux pour être sûre que je ne tombais pas par hasard sur quelque chose. Aujourd'hui, j'ai gagné en confiance en moi. C'est horrible à dire, mais de toutes ces expériences tragiques pour l'âme, en fait, on en sort forcément un peu grandi. Et aujourd'hui, ça ne me fait plus grand-chose. Ça me fait plutôt rire. Et en fait, j'ai compris l'importance de ce que je faisais, parce que j'ai toujours fait ça dans le simple but de pouvoir aider ma prochaine à sentir qu'elle avait une place dans ce monde et qu'elle avait le droit de faire absolument ce qu'elle désirait, même si les règles avaient l'air pas prévues à cet effet. Et quand j'ai vu à quel point ça pouvait aider même peu de personnes, même si ça aidait moins de personnes que de personnes qui m'insultaient, ça avait valu la peine. Et donc aujourd'hui, j'ai une forme de confiance à ce niveau-là où je me dis, le pire est derrière moi, en fait. Là, il n'y a plus rien qui peut me mettre à terre. Si j'ai survécu à ça, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir m'empêcher de faire ce que j'ai à faire et de dire ce qui me semble être ma vérité. Et je suis assez surprise de voir autour de moi, justement, les mouvements féministes évoluer, grandir, et puis surtout de plus en plus de personnes comprendre qu'il y a un vrai souci et qu'il faut le régler. Je sais pas, j'ai des moments où je suis un peu plus peut-être fébrile que d'autres et où je vais avoir beaucoup moins d'humour quant aux commentaires négatifs. Mais globalement, je sais que je défends quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi et que même si j'ai moi des mauvaises journées, à la fin, ce qui compte, c'est que les choses aient changé. Donc peu importe que moi, parfois, je passe des sales quarts d'heure à cause des personnes sur Internet.
Mais justement, cette histoire date d'il y a quand même quelques années. Hein. C'était en 2016, je crois, donc c'était il y a 5 ans. Oui. Et pourtant, j'ai envie de dire que rien n'a changé. Je dirais même qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses s'empirent. Et en plus, les réseaux sociaux, en plus, ne font rien contre ce genre de pratiques encore aujourd'hui. Il n'y a pas des moments où tu te dis, vas-y, ça ne sert à rien, j'abandonne. Ou au contraire, tu vois, ça te rend finalement encore plus fort.
Il y a des jours où j'ai envie de tout abandonner, de moins en moins évidemment, mais il y a des jours où je suis très en colère et je vois comment les choses sont gérées. Je vois effectivement que les réseaux qui ont à cœur dans leur organisation de partager des messages sociaux, on a vu YouTube il y a quelques années, Instagram là il n'y a pas longtemps non plus, vraiment contacter les créateurs et dire nous on veut faire un vrai changement positif dans le monde, lutter contre le sexisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie, etc. Puis en fait le problème c'est être géré dans un système de rentabilité. Enfin, quand il y a de l'argent en jeu, malheureusement, tu peux avoir toutes les meilleures intentions du monde. J'ai l'impression que ça s'annule et c'est le problème de tout ça. C'est qu'ils ont fini par abdiquer un peu et par dire oui, mais en fait, non, parce que du coup, ça veut dire qu'on va devoir se brouiller avec un bout du public et on n'a pas envie de faire ça. Donc, je ne te cache pas que j'ai oublié ta question de base, mais en tout cas...
des fois, tu avais envie d'abandonner.
Ah oui, oui, il y a des fois où j'avais d'abandonner et je me dis toujours non, parce qu'on ne sait jamais ce qui va créer un impact. C'est-à-dire que là, tout de suite, je pourrais me dire « c'est chiant parce que j'ai des posts qui ont été censurés et donc mon message, il n'est pas passé ». Mais je ne sais pas si j'ai pas si mon post n'a pas été vu par la bonne personne au bon moment qui va devenir présidente de la République dans quelques années. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Et je me dis toujours, effectivement, c'est plus compliqué, on a moins de visibilité. Et quand j'allume la télévision, je suis dans un seum inqualifiable parce que toutes les émissions visent à relooker des femmes qui sont considérées comme pas assez jolies et que finalement, j'ai l'impression de faire ce travail-là, mais que dans le fond, les trucs les plus accessibles restent des horribles messages à toute la gente féminine et masculine aussi. Et je me dis toujours, en fait, peu importe, parce que peut-être que ce que je fais, c'est pas tout de suite que ça aura un résultat, mais je peux pas m'arrêter de le faire. Je ne peux pas m'arrêter de le faire déjà parce que je pense que c'est indispensable, c'est viscéral, c'est dans mes tripes. Je n'arrive pas à faire autrement. Et ensuite, parce que je ne me vois pas faire un autre métier. J'ai l'impression que l'espoir et l'optimisme que quand je meurs, les choses, elles aient changé. remportera toujours tous les jours où j'ai eu envie de pleurer et d'abandonner.
Et comme on l'a dit tout à l'heure, t'as créé beaucoup de contenu qui était quand même vachement avant-gardiste. Ça fait plusieurs années maintenant que tu fais ce métier. Comment tu vois l'évolution un peu de la société? Est-ce que tu es assez heureuse ou inversement,
ben,
est-ce qu'il reste encore du chemin quand même?
Ben déjà, il reste encore... J'ai deux théories qui s'opposent totalement dans mon être intime. La première, c'est que les choses avancent, mais que malheureusement, on est plus de la moitié de la population. Donc, se satisfaire des micro-pas qu'on a réussi à faire alors qu'on est des humains, ça me donne toujours envie de pleurer. J'ai un souvenir très précis. J'avais parlé d'une campagne de la RATP dans le métro qui visait à lutter contre le harcèlement dans les transports. Et ils avaient mis donc une femme humaine qui tenait une barre de métro, mais qui était dans une forêt. Et derrière elle, il y avait un ours ou un loup ou un requin. Et il y avait vraiment écrit « le harcèlement, c'est pas bien ». Et j'avais vu cette campagne en disant c'est scandaleux, parce qu'au lieu de réellement permettre aux personnes qui harcèlent dans les transports de s'identifier, ils ont mis des créatures sauvages. Mm-hmm. Du coup, ça va jamais rien faire. Parce que oui, moi, je vais m'identifier à la femme qui tient la barre de métro. Jusqu'à preuve du contraire, ça va. Mais dans la mesure où c'est pas moi qui ai un problème avec le fait de me faire harceler, mais c'est bien le harceleur qui a un problème avec le fait de harceler, comment voulez-vous qu'on évolue? Et je me souviens de quelqu'un qui m'avait répondu « Oui, mais c'est déjà super qu'ils en parlent. » Et j'étais là « Oui, mais là, en fait, il s'agit de la survie de toute une partie de la population. Donc, on est au-delà de « c'est déjà sympa d'avoir fait ça ». Encore une fois, on ne fait pas la charité pour l'égalité. On n'est pas en train de demander la permission d'avoir les mêmes droits et d'être traités comme des individus et qu'on arrête de nous violer ou de nous payer moins. On est en train de dire « c'est ça qui va se passer ». Et c'est toujours hyper difficile. Donc, il y a une part de moi qui te dirait « ah, c'est vraiment dommage parce que ça pourrait aller beaucoup plus vite aussi ». Si ouais. Les personnes qui étaient concernées par ces privilèges se sortaient un peu plus les doigts et comprenaient l'urgence que c'était. Et en même temps, il y a une part de moi qui voit les générations à venir, que ce soit dans les influenceuses ou dans les créatrices ouais. de contenu, et qui trouve ça extraordinaire ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en une génération à peine, on est passé d'un comportement comme moi j'ai eu, c'est-à-dire j'ai été élevée comme une bonne petite victime. J'ai été élevée à dire oui, j'ai été élevée à avoir peur de dire non, j'ai été élevée à vouloir faire plaisir à tout le monde, à être gentille, à faire un bisou, tu sais. J'ai été élevée à absolument vouloir blesser personne et vouloir plaire à tout le monde et vouloir, quitte à me marcher dessus, être très, très corporate.
Ouais.
Et là, je vois la génération des jeunes filles qui sont pas désolées, qui y vont, qui foncent, qui savent qu'elles ont le droit d'exister, qui sont pas dans ces discours-là, qui prennent la place sans être en train de demander la permission pour le faire. Donc il y a aussi une part de moi qui dit « mais c'est génial, c'est formidable, ce vers quoi on tend là, cette attitude où c'est de légitimité qu'ont ces jeunes filles, moi ça m'épate et je trouve ça formidable, donc j'ai aussi beaucoup d'espoir. Je me dis qu'un jour ça va aller beaucoup plus vite. Je sais pas quand il y aura une petite accélération, mais il y aura une accélération, c'est sûr. »
Il y en a déjà une pas mal, déjà, après l'ère post-MeToo, je pense que ça a vachement accéléré les choses.
Ouais, bah chez les filles, oui, c'est sûr. Chez les garçons, ça reste encore vachement à désirer, je trouve. Je trouve qu'on n'entend pas beaucoup de... On n'entend pas beaucoup de mecs qui disent « Ok, j'ai compris, j'ai évolué, j'ai changé. » Et ça, c'est un tout petit peu dommage aussi, parce que c'est pareil, on n'arrête pas de nous faire croire que les problèmes de féminisme, c'est les problèmes des femmes, mais en fait, c'est clairement les problèmes des hommes.
Bien sûr.
Le harcèlement sexuel, c'est pas notre problème, hein. C'est leur problème, c'est ceux qui harcèlent sexuellement qui ont un problème, pas l'inverse. Et je souhaiterais qu'avec la génération de jeunes filles qui viennent pour tout casser, il y ait aussi des jeunes mecs qui viennent pour être des bons alliés à ça, quoi.
Tout à fait d'accord. Ce que j'aime bien aussi dans ce podcast, c'est de parler un peu de développement personnel. Et moi aussi, même si on ne le voit pas toujours, je n'ai pas toujours confiance en moi. Et je suis assez impressionnée par les gens comme toi qui osent. Et pourtant, en préparant ce podcast, et d'ailleurs, comme tu l'as dit aussi un peu tout à l'heure, hein, j'ai un peu travaillé aussi. Et du coup, j'ai écouté pas mal de petites interviews de toi. Et je remarque qu'à tes débuts, bah, tu n'avais pas trop confiance en toi aussi. Tu n'étais pas sûre de toi, sûre de ton travail. Tu n'avais pas du tout aussi conscience de ton talent aussi, j'ai trouvé. Un peu comme dans le syndrome de l'imposteur finalement. Alors est-ce que aujourd'hui tu as repris confiance en toi, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça vient aussi avec le temps, et comment tu as fait? Dévoile-nous un peu tes meilleurs conseils aussi pour sortir de sa zone de confort et un peu donner vie à ses envies.
Bah déjà, il faut savoir que même si c'est mieux, c'est la confiance en soi, c'est jamais un Ouais, c'est jamais acquis. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas assez longtemps, je trouve. J'aurais bien aimé le savoir avant. Mais la confiance en soi, c'est jamais un acquis. Tu crois que tu l'as parce que tu gères pendant un certain temps. Et à un moment, tu retombes un petit peu de ton petit nuage. Et c'est pas grave, c'est normal, ça fait partie du taf. Et comme tu sais que tu as déjà réussi à remonter sur ton nuage, bah, tu sais que tu vas pouvoir réussir à revaincre ce petit moment de creux. Mais c'est hyper perturbant de voir que ça dépend vraiment des périodes et des moments. En tout cas, sur ma légitimité, même si je suis encore systématiquement en conflit, évidemment, avec moi-même et avec la sensation que je peux réussir et je peux dire ce que j'ai envie de dire, j'ai toujours des petits moments de faiblesse où je me pose les questions. Avec le temps, ça s'estompe aussi. Et il y a un moment où... je crois que le meilleur conseil que je peux donner, parce que c'est ce qui, moi, m'a fait me rendre compte de ça, c'était qu'il n'allait pas falloir que j'aie des regrets. Ça m'a fait tellement paniquer d'avoir des regrets, de me dire « Merde, je n'ai pas envie de regarder ma vie dans 30 ans et de dire « Putain, t'as gâché tout ce temps. » Et je pense aussi que ce qui est pratique avec le syndrome de l'imposteur, c'est qu'à un moment, on s'auto-soule. Moi, je me suis beaucoup auto-soulée, c'est-à-dire que vraiment, j'étais en boucle sur « Est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je ne vais pas réussir ? Mais c'est horrible, imagine, qu'est-ce qui peut m'arriver ?» Et très bêtement, au bout d'un moment, à entendre le propre son de ma voix en train de chouiner, ça m'a fait chier. Je me suis dit « Mais non, c'est pas possible, ça ne va pas être possible. » Et du coup, je me suis vraiment foutu un coup de pied au cul. J'ai roulé des yeux beaucoup en me disant « C'est bon, t'es chiante. » Il faut imaginer toujours que si on veut être sa meilleure amie, et c'est toujours très difficile, en tout cas s'adresser à soi-même comme on s'adresserait à sa meilleure amie, il y a aussi un moment où moi, j'attends de mes meilleures amies qu'elles me disent « Arrête, s'il te plaît, d'être en boucle sur les mêmes trucs. Ouais. Fais des choses parce que ça ne va pas avancer sinon. » Et cette espèce de peur d'avoir des regrets, plus cette espèce de moments où j'étais gavée par le propre son de ma voix en train de se plaindre, où je me suis dit « Bon, bah voilà, il faut faire quelque chose maintenant, quoi. » Et je crois que c'est un de mes moteurs. Je pense que le secret, c'est de trouver son moteur. Certaines auront un moteur dans la revanche, dans la sensation de dire « Ah, vous m'avez dit que je pourrais pas, bah, je vais vous montrer. » Moi, j'ai ça aussi beaucoup.
Moi aussi, j'ai ça.
Ben, ça, c'est super, en fait. Profiter de tous les gens qui nous ont dit « Je suis pas sûre que tu vas y arriver » pour dire « Challenge accepté. » Mais après, c'est parce que je suis bélier aussi. Je sais
moi
pas
aussi.
Quel signe t'es. Ben voilà.
Non, mais bientôt ton anniversaire, en plus.
Ouais, toi aussi, non ?
Ben ouais, dans une semaine.
Allez, finesse.
Ça nous rajeunit pas, hein. Bah ouais,
premier jour du printemps ?
Ouais.
Allez, c'est un beau jour. Oui, tu as ce truc de où tu le prends comme un challenge et du coup tu fonces, ou tu as cette peur de pas faire assez et tu n'as pas envie de t'en vouloir à toi-même, donc tu fonces, ou alors tu vas avoir la peur qu'on fasse ce que tu veux faire avant toi. Il faut trouver son moteur, il faut trouver ce qui te donne envie de te lever le matin et de foncer. Et je pense que c'est un des meilleurs conseils que je peux donner, quoi. C'est de prendre le temps. Et s'il faut rester un peu longtemps dans son syndrome de l'imposteur avant qu'on soit auto-soulé, bah, faut que ça prenne le temps, quoi. En tout cas, il faut surtout pas culpabiliser de pas avoir trouvé le truc qui nous booste. Il faut juste, à un moment, voir ça comme arrêter de se regarder le nombril, parce que ça changera rien, quoi. Et c'est ce que je conseille aussi, en général, quand on me parle de body positive, c'est que, tu sais, il y a un côté... oui, c'est dur de ne pas s'aimer, etc. On sait, on le vit toutes. Je ne connais pas une seule femme qui est bien dans sa peau. Maintenant, la question, c'est combien de temps tu as encore envie de te regarder le nombril et de t'écouter ? Et je trouve qu'en se moquant un petit peu de nos problématiques hyper existentielles, on arrive aussi à passer outre, en se rendant compte qu'en fait, on est juste en train de chouiner toute seule sur nos propres problèmes. Bah là, du coup, ça nous ridiculise un peu. On se moque de ce problème et on se dit « Ok, bah maintenant, je vais foncer. » Parce qu'en fait, effectivement, vu de l'extérieur, c'est pas ouf.
J'adore. J'aimerais bien aussi dans ce podcast parler de ta communauté. Une des particularités de ce podcast, c'est de recevoir des femmes qui ont réussi à créer un véritable lien avec leur communauté. Et toi, tu es suivie sur les réseaux sociaux par plus de 600 000 followers, si je cumule un peu Instagram et YouTube. Donc, c'est assez impressionnant. Je te l'apprends.
J'avais jamais vu ça comme ça. Oui, j'avoue. Je n'avais pas additionné les deux. J'avais juste... Voilà. Merci à toi.
Mais finalement, en plus d'être aussi puissante, elle est surtout très fidèle et engagée. Alors, comment tu as réussi un peu à créer ce lien unique avec ta communauté ?
Déjà, je pense que si j'engage autant, et quand je dis j'engage, je ne veux pas dire en nombre, mais en qualité, c'est que je dis des choses qui sont politisées, entre guillemets. Ça m'ennuie toujours de considérer le féminisme comme politique parce que j'ai l'impression que l'égalité, c'est vraiment le béaba de l'humanité, quoi. Donc, ça m'ennuie d'avoir la sensation d'être en train de dire que c'est politique parce que je veux que les femmes aient les mêmes droits et les mêmes libertés que les hommes. Mais bon, c'est le cas. Le fait que je porte un discours aussi politisé fait que tu peux pas me suivre par hasard. Les gens qui me suivent, c'est pas genre sur un malentendu, ils sont tombés sur mes photos, ils les ont trouvées jolies. C'est pas possible. C'est-à-dire que très rapidement, tu vois que ce que je raconte, il y a un fond et tu peux très rapidement savoir si tu es d'accord ou pas avec mon fond. Et quand t'es pas d'accord, tu t'en vas. C'est ça qui est pratique. Et quand t'es d'accord, tu restes. Et quand t'es d'accord, tu vois toutes les autres couches de ce que j'essaye d'amener en tant que personnalité publique, qui est que j'ai plein de nuances, je suis quelqu'un de complexe, j'ai des hauts, j'ai des bas, et je compte pas mentir là-dessus, à aucun moment. Et je pense que c'est d'abord ça qui a fait que les gens se sont très vite soudés avec moi, c'est que j'ai pas essayé de leur faire à l'envers.
Ouais.
Ne serait-ce que dans la manière dont je me présentais. J'ai des photos toujours très léchées parce que j'adore faire des shootings et que c'est un peu mon questionnement de l'esthétisme passe par mon compte. Mais en story, je suis pas une grande adepte des filtres. Je suis pas une grande adepte du suivez ma vie dans les palaces, etc. Et surtout, je pense que j'ai réussi à traduire pas mal de trucs qui pouvaient être agaçants sur les réseaux sociaux et qui fait que les gens me suivent avec intérêt. Je m'adresse à eux comme si c'était des potes à moi et comme si on était tous dans le même bateau. Je me rends assez accessible autant que je peux. Alors, ça ne veut pas dire que je fais où je réponds au courant du cœur quand on me demande de l'aide. Mais en tout cas, J'ai un certain nombre d'abonnés avec qui j'ai des échanges réguliers parce que c'est des gens qui comme si j'étais devenue amie, quoi. Mmh. Et c'est très agréable. Je saurais pas expliquer le reste. Je pense aussi ne jamais les avoir pris pour des imbéciles quand j'ai commencé à faire de l'influence rémunérée. C'est-à-dire que j'ai toujours été très transparente sur qui me payait, qui ne me payait pas. À quel moment ça me semblait normal de parler d'un produit et à quel moment je le faisais pas. Et comme j'ai jamais été dans cette, je les ai jamais fait sentir comme des outils à mon gagne-pain. Et je pense que ça aussi, ça a beaucoup aidé. Ça m'a permis de faire de l'influence, mais comme j'étais transparente, de pas avoir des gens qui se désabonnent comme souvent ils le font en disant ah t'es vraiment une vendue. J'ai très rapidement dit voilà l'économie de mon métier. Je parle de marque, comme ça je gagne de l'argent. Et avec cet argent, je fais des fictions qui sont gratuites et que vous pouvez regarder éternellement. Et les gens ont très vite eu la sensation qu'ils étaient impliqués dans mon économie. En gros, que je leur disais, c'est pour vous aussi que je fais ces fictions. Du coup, si vous ne supportez pas la publicité, rien ne vous empêche de la jarter. Par contre, vous ne pouvez pas me demander d'arrêter de gagner ma vie. Ce n'est pas possible. Sachant qu'en plus, notre rapport, il est complètement égalitaire puisque ces gens ne me payent pas. Je suis pas leur employée et ils sont pas non plus mes employés. Donc c'est vraiment, je pense que plus j'ai été honnête, plus ça a été utile vis-à-vis de la confiance que j'avais avec eux. Et je suis toujours hyper surprise quand je fais des lives à quel point les gens sont vraiment, je me sens ils sont au rendez-vous puis je me sens en sécurité avec eux, quoi.
C'est bienveillante comme... la communauté.
Elle est super bienveillante, ouais, tout à fait. Elle est super bienveillante, elle est très reconnaissante aussi, et ça fait toujours plaisir, évidemment, de savoir qu'on parle à des gens et que ça sert à quelque chose. Et puis, elle est drôle aussi. Je me rends compte que ma communauté est très drôle, vraiment composée de plein de gens qui jouent le jeu quand je dis des conneries ou quand je fais des conneries, qui veulent bien venir avec moi dans ces délires-là. Et c'est toujours hyper agréable, quoi.
Ça revient assez souvent, c'est vrai, la sincérité et l'authenticité, j'ai l'impression que pour perdurer aussi dans ce métier, c'est des choses qui sont importantes.
Oui, parce que je pense aussi qu'on n'est pas des... En tant qu'individu, on n'est pas des imbéciles et on voit très rapidement quand les gens posturent depuis trop longtemps. On voit nous-mêmes l'espèce de faux-semblant et c'est fatigant à tenir. Donc moi, je conseillerais à quiconque veut se lancer dans un métier comme ça ou avoir des réseaux avec des abonnés, c'est fatigant d'avoir un personnage parce que tu peux pas le tenir toute ta vie et il y a forcément un moment où il y a des bribes de toi qui vont s'échapper. Donc plus t'es proche de toi, plus t'es toi finalement, moins ce sera fatigant de le tenir et tu pourras, sans avoir à calculer et à perdre un temps fou à te poser des questions existentielles, continuer à faire du contenu et à comprendre que c'est le fond qui va l'emporter sur la forme.
Et tu parlais aussi, il y a quelques minutes, des partenariats rémunérés. C'est vrai que sur ce podcast, on a beaucoup d'entrepreneuses ou de futures entrepreneuses aussi qui nous écoutent. Donc, comment ça se passe si on a envie de travailler avec Marion Seclin?
Eh bien, en fait, il faut m'envoyer un mail. J'ai une adresse de contact sur Instagram et je suis extrêmement accessible à ce niveau-là parce que souvent, il y a plein de gens qui disent... effectivement, comment on fait pour te contacter, tu dois être difficile à contacter et les gens passent par des agents ou des agences, des trucs hyper obscurs où il faut vraiment avoir fait des recherches, alors qu'en fait il y a un bouton contact sur mon Instagram qui est une adresse mail à laquelle j'ai accès et évidemment que je suis pas seule à gérer, mais voilà. Et en fait on m'expose en général son projet et ça va marcher au coup de cœur ou pas. Alors je fais plus du tout d'influence traditionnelle, c'est-à-dire je parle plus de produits face caméra en mettant des liens en swipe et des codes promo parce que c'est pas quelque chose dans lequel je me suis épanouie très longtemps.
Ouais.
En fait c'était pratique pour gagner ma vie, mais globalement ma vie était devenue gagner ma vie et ça me plaisait pas.
Ouais, toi t'es donc, plus dans la créativité quoi.
Ouais, c'est ça. J'ai envie de pouvoir faire des partenariats avec des marques. J'ai envie d'avoir des marques qui me disent « Tiens, je te propose, je te donne tant d'euros et puis tu places mon produit dans ta prochaine vidéo et tu me dis juste merci dans la légende et ça suffit. » J'ai envie de pouvoir faire vraiment du placement de produits comme on peut voir au cinéma ou dans les clips, tu sais, qu'on notifie pas forcément vraiment, mais qu'en gros, les marques deviennent des mécènes de mes créations et acceptent de créer avec moi. Et pas juste de me dire « Tiens, tu es une devanture, tu es une vitrine, tu es une femme sandwich. Dis les mots et ce sera super, tu vois. » Et du coup, il suffit juste de me proposer des trucs ou de me dire « Viens, on réfléchit ensemble. » Et en général, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment à l'humain, quoi. À l'humain, à la marque, au produit, au projet, à toutes ces idées-là. Et je ne suis pas du tout quelqu'un qui va dire non parce que ce n'est pas rémunéré, par exemple, ou qui va accepter des choses très, très bien rémunérées qui ne me correspondent pas. J'ai beaucoup plus à cœur, en général, d'être dans quelque chose que j'aime et que je défends plutôt que quelque chose de bien payé, quoi.
Donc, si tu aimes bien des projets et que tu peux donner un coup de pouce et un coup de boost à des entrepreneuses, tu le fais volontiers aussi.
Absolument, ouais, bien sûr. Dans la mesure où, évidemment, c'est quelque chose qui ressemble à ce que je fais, on me demande souvent de partager les projets d'autres gens. Mmh. Et c'est difficile pour moi de le faire parce que cette communauté qui me suit, elle me suit quand même pour me voir participer aux choses. Et c'est bête à dire, mais moi, je ne suis pas un média. Et souvent, les gens confondent et pensent que parce que je suis engagée, je suis donc une plateforme de partage de trucs qui concernent le féminisme ou qui concernent les femmes. Alors qu'en fait, non, je suis une personne. Et comme tout individu, j'ai aussi envie de pouvoir, m'y retrouver dedans, quoi, faire des choses qui me plaisent. Ça aussi, c'est un truc, au début, quand j'ai commencé, cette espèce de générosité de la sororité et de dire « mon Dieu, il faut tout concentrer, c'est hyper important ». Mais derrière, il y avait du coup quelque chose, c'était que je ne me retrouvais plus forcément dans tout ce que je partageais, tu sais, puisque j'étais devenue comme une sorte de canal à partage de projets d'autrui, juste sous prétexte qu'il faut s'entraider. Il y a presque une forme de culpabilité parfois autour de ça qui faisait que j'avais envie de mener ma barque d'une manière mais que je me sentais obligée de ne pas le faire parce que c'était moi qui étais mise en avant et en même temps c'est aussi ça mon travail, tu sais.
Et on parlait un peu aussi de ta créativité. Comment tu fais pour sans cesse te renouveler, pour booster ta créativité? Est-ce que tu as des petites astuces justement quand on est en panne d'inspi, comment tu fais pour la retrouver?
Déjà, j'ai plein de carnets et de notes sur mon téléphone où j'ai noté des trucs et je les ai laissés tomber pendant 2 ans. Et en les retrouvant, il arrive que ces choses-là rejaillissent et me donnent une nouvelle idée ou quelque chose.
Et tu notes quoi?
Je note plein de petites bricoles, je note... Je vais noter tantôt des petits bouts de paroles de chansons, tantôt des idées métaphoriques d'un truc, des phrases juste tout simplement, des concepts, je sais pas, je note tout et n'importe quoi, tout ce qui me vient en tête et qui me fait... Mais tu vois, ça c'est une gym du cerveau que j'ai commencé à faire assez tôt. C'est tout est une bonne idée si tu décides de le transformer en bonne idée. Et le fait de te dire... Tiens, c'est par exemple, moi, je fais de l'image, je fais des films. Donc, comment est-ce que ce que je vis au quotidien peut devenir un film? Et ça devient une discussion avec une pote, un truc que tu entends dans les transports. Tout et n'importe quoi peut devenir un sujet génial, une source d'inspiration. Et c'est une habitude qu'il faut que tu prennes, c'est d'essayer de te demander à chaque fois que tu vis quelque chose ou que tu vois quelque chose, tiens, comment est-ce que ça peut être utile? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Et ça marche toujours hyper bien, je trouve, même après des années, cette espèce de mécanisme où tu peux plus rien vivre sans avoir cette déformation professionnelle qui te fait te dire, waouh, ça peut devenir une super histoire à raconter. Et à la fois, c'est drôle parce que tu vois le bien partout. Enfin, tu vois l'inspiration ouais. partout. Et à la fois, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a plein de personnes de mon entourage qui me disent « Mais attends, arrête de penser à ça. » Et je suis là « Mais non, c'est super, c'est génial. Je vois trop comment je peux. » Mais bon, c'est comme ça. Après, je ne suis pas particulièrement adepte du fait d'aller écouter ou lire d'autres trucs. J'ai toujours peur de me laisser influencer et de ne pas me rendre compte que je suis en train de pomper des trucs, tu sais.
Ouais.
Ça m'est tellement arrivé de voir mon travail repompé par des gens que je connaissais et qu'il avait probablement fait sans en avoir conscience. Qu'à un moment, je me dis, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie, en panne d'inspiration, aller regarder le travail de quelqu'un et même pas me rendre compte que je suis en train de récupérer la même idée et de le faire à ma sauce. Donc, c'est pour ça, je pense que je me renouvelle. Je pense que je me lasse très, très vite aussi.
Mm-hmm.
Au bout d'un moment, quand j'ai commencé à maîtriser un truc, par exemple, quand je faisais des unboxings réguliers, j'ai fait juste des unboxings face caméra, puis j'ai commencé à les tourner, à faire une voix off, à faire du graphisme, à faire un montage, à en faire des petites vidéos. Et au bout d'un moment, quand je suis arrivée au bout de ça, je me suis dit, bon, bah c'est bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait de nouveau? Et je pense que j'ai besoin de nouveautés régulièrement. C'est comme ça que j'arrive que j'ai cette exigence de faire du nouveau, tu sais, c'est de dire, c'est bon, je maîtrise, est-ce que je peux passer à autre chose maintenant?
Non, mais je me reconnais assez bien aussi. Moi aussi, j'ai un petit exercice, une petite gym du cerveau qui fait que maintenant, même n'importe quel mot peut m'évoquer quelque chose. Et voilà, j'écris tout dans mes notes.
C'est trop bien ça.
Ouais.
Le plus drôle, c'est de se relire quand on n'a pas été assez précis.
C'est vrai, je sais plus ce qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là.
Ça c'est tragique et il faut pas... Ça, c'est une très bonne leçon, je pense, à donner aux auditeuristes. C'est vraiment... si vous prenez des notes de ce que vous avez en tête, soyez le plus précis possible parce que je vous promets que quand vous les retrouvez et que vous n'avez pas été assez précis, vous en voulez absolument parce que ça se trouve c'était l'idée du siècle et moi ça m'arrive combien de fois encore aujourd'hui d'écrire juste un mot, de me dire non mais je me comprendrai, je saurais me relire et je ne sais pas me relire, je ne sais pas comprendre ce que j'ai voulu dire et je suis paniquée.
Je suis totalement d'accord. Et rapidement aujourd'hui Marion, aujourd'hui, c'est quoi Marion Séclin? Raconte-nous un peu tout ce que tu fais, quels sont peut-être tes futurs projets, tes futures ambitions.
Aujourd'hui, j'ai ouvert une petite boîte de production début 2020 pour pouvoir produire mes fictions moi-même sans avoir besoin de passer par l'accord de plein de personnes autour, parce que c'est quand même une industrie dans laquelle il y a plein de gens qui rentrent en compte, et où justement... À vouloir faire confiance un petit peu à mon avis. Je me suis rendu compte que j'étais un diffuseur aussi, avec tous ces gens qui me suivent, que c'était moi le diffuseur, que j'avais plus besoin de l'aval de 402 personnes avant moi. Donc j'ai décidé de produire moi-même ce que je voulais faire. Donc j'écris de la fiction, j'écris des courts-métrages et je les tourne autant que faire se peut, évidemment. Mm-hmm. Je suis aussi, je suis toujours embauchée comme comédienne. Je suis en train de tourner dans un truc très chouette dont j'ai pas du tout le droit de parler, mais qui, quand il sortira, sera vraiment très chouette, j'en suis convaincue, qui est pour une plateforme, mais qui est encore un secret. Et toi-même, tu sais, pour les plateformes, que potentiellement, il y a un sniper qui est sur moi, et si j'en dis trop, il me tire dessus, donc il faut que je fasse attention. J'ai été scénariste et j'ai créé une série pour France TV Slash qui a été tournée, qui a terminé de tourner. Début mars, et qui du coup va être diffusé normalement dans le courant de cette année, j'espère. Après tu sais aussi, on ne sait jamais quand ça va être diffusé. C'est une série vraiment qui me tenait à cœur et qui a toute mon âme à l'intérieur. Même si j'apparais pas dedans et qu'il n'y a pas de personnage qui me ressemble, je pense que très rapidement, les personnes qui me suivent un peu et qui savent ce que je raconte et ce que j'ai envie de mettre dans le monde vont très vite voir que c'est bien ma série et pas une autre. Toujours, j'essaye de développer, de raconter des choses, de tester des nouveaux formats. Là, en ce moment, j'essaye de tester un format un peu plus documentaire pour un placement de produit que je devais faire et où j'ai eu une liberté totale. Et je me suis dit, je vais en fait faire ce que j'ai envie de faire. Et comme la marque m'a suivi, c'est très agréable de pouvoir travailler dans ces conditions-là. Mais le format en lui-même reste une création dont je suis très fière. même si à la base, j'ai fabriqué parce que j'avais un produit à placer.
Ça reste des créations sur lesquelles tu es hyper fière.
Ah ouais, bien sûr. Et puis surtout sur lesquelles j'écris vraiment avec tout mon cœur et toute mon âme, parce que je me dis, en fait, c'est pas je m'en fiche du produit, je suis contente que la marque soit contente, mais je suis surtout très contente que la fiction soit intéressante, que la fiction ou le documentaire soit intéressant à regarder, et que ce soit un peu comme j'ai pu faire sur mon corps, mon cœur ou mon cerveau, c'est dire voilà ce qui se passe dans ma tête et si je peux le mettre au service de quelque chose et utiliser l'argent qu'on me donne pour pouvoir justement faire cette production-là, bah, je vais le faire, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc je suis toujours un peu par monts et par veaux et j'essaye de toucher à tout. Tant que je ne suis pas lassée, je continue, quoi. Et puis je verrai où le Covid me mène aussi, parce que on va pas se mentir, malheureusement on est tous un peu bloqués par ça, et même si ça m'a pas empêché de créer jusque là, je pense que la fatigue émotionnelle qui vient avec, c'est difficile de trouver du bonheur, quoi. C'est difficile de trouver de la joie.
Je pense qu'on s'épuise un peu. J'ai l'impression que le premier confinement, ça nous a apporté quand même pas mal de choses positives. On s'est pas mal remis en question. Ça a été un facteur de créativité aussi. Mais là, je pense que ça fait un an, ça commence à vraiment durer, à peser lourd sur la psychologie de tout le monde. Et ça devient de plus en plus dur même juste de retrouver un peu le sourire, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est surtout quand on raconte des histoires, c'est bien parce qu'on raconte des histoires de choses qu'on a vécues, mais moins on vit de choses, moins on a de choses à raconter. Et du coup, l'effort d'aller chercher dans un imaginaire, il n'est pas pareil. Et j'avoue que j'arrive à un stade où je suis très heureuse de mon travail et de ma vie et de tous les choix que je fais. Mais j'aimerais bien qu'il m'arrive des bricoles, tu sais.
Je me dis, tiens,
j'aimerais bien qu'il m'arrive quelque chose.
Un peu l'action.
Ouais, un peu d'action, même un peu de drame, pourquoi pas, parce que je finis presque par me dire que le drame me manque.
Ah ouais. Et parlons rapidement aussi de ta vie perso. Tu es une femme aux mille et une casquettes, tu es comédienne, tu es auteur, tu es scénariste, tu es même un peu humoriste, tu es créatrice de contenu, tu es aussi mannequin, tu as été chroniqueuse, et j'en passe. Je ne savais pas par où commencer en travaillant ce podcast. Mais finalement, comment tu as réussi à tout conjuguer? Réponds un peu franchement, est-ce que c'est le bordel ou est-ce que tu gères?
C'est le bordel, mais c'est pas le bordel parce que je fais plein de trucs, c'est le bordel pour savoir ce que j'ai vraiment envie de faire et ce que je continue à faire parce que je sais pas, parce qu'on me demande, tu sais. Ma vie me convient parce que ma vie elle est dévouée à ce métier et à tous ces métiers que j'ai, et c'est de là-dedans que je trouve la richesse des rencontres, des humains qui m'entourent, des histoires que j'ai à raconter. Donc globalement, je suis entourée de personnes formidables avec qui je travaille régulièrement. Et ça a mis du temps à arriver aussi, hein. C'était pas évidemment dès le début de ma carrière. J'ai beaucoup travaillé avec des gens avec qui je m'entendais pas du tout, pour des raisons simplement de divergence artistique. Mais globalement, je suis très heureuse de ma vie, même si parfois c'est un peu chaotique parce que j'ai du mal à sauter de l'un à l'autre. Quand je joue dans une fiction que j'ai pas écrite, c'est difficile de revenir au bureau et de me dire ok, maintenant je vais travailler sur mes trucs. Mais ça se fait, c'est une gymnastique qui se fait. Et puis ça me manque pas de pas avoir une vie privée traditionnelle du tout. Je me dis à aucun moment oh non, je passe à côté de quelque chose, parce qu'en fait mon bébé et l'amour de ma vie, c'est vraiment ma carrière, quoi. C'est ce que je fabrique. Et donc, j'ai pas l'impression d'être en train de sacrifier quelque chose. Donc, je suis très contente, vraiment. Je me pose même pas cette question dans ces termes-là. Je vois les gens autour de moi, effectivement, fonder des familles. Et je me dis, c'est super. Mais moi, j'ai ma famille. C'est mes notes.
Je vois très bien ce que tu veux dire. J'aimerais, juste avant qu'on termine ce podcast, passer à une petite partie qui s'appelle le Girl Boss Tips. L'idée, c'est que je te pose une série de questions un peu au tac et que tu me répondes le plus rapidement. Voilà, ce qui te passe un peu par la tête.
Ok.
Quelles sont, selon toi, les trois qualités essentielles d'une actrice?
L'écoute, l'humilité et la sincérité.
Ok. Et quels sont, selon toi, les trois outils indispensables pour faire du bon contenu?
Le fond, quel qu'il soit, avoir un truc à raconter, quoi. Ça, c'est un outil formidable quand on a envie de raconter et un truc, rien n'est plus puissant. le fait d'être débrouillarde et de ne pas s'arrêter aux problèmes techniques ou aux problèmes financiers, le fait de faire coûte que coûte et pas avoir peur de... Enfin, pas... comment dire ça ? Oui, le fait d'être un petit peu sans peur et sans reproche, en se disant, tu sais quoi, je vais le faire, puis on verra bien ce qui se passe après, quoi. Pas trop réfléchir avant, ça, c'est plutôt pratique.
Et justement, comment tu arrives à gérer les jugements et avoir pleine confiance en toi et en tes projets ?
Faut toujours faire attention d'où vient le jugement, parce que le jugement vienne de gens que j'aime très fort et qui me connaissent, bah, ça va forcément me forcer à me remettre en question. Mais quand le jugement il vient d'une poignée d'inconnus sur Internet qui, eux, ne fabriquent rien, bah, en général, j'avoue que j'ai tendance à relayer ça un petit peu au second plan. De la même manière qu'avoir quelqu'un que j'aime très fort qui me dit que mes cheveux sont super jolis aujourd'hui et des gens dont je me fous totalement me dire que je suis mal coiffée, bah, ça va forcément beaucoup moins me toucher quand c'est des gens que je ne connais pas. Donc, le meilleur conseil que je peux donner, c'est il y a une poignée d'humains dans notre vie à chacun qui peut nous donner son avis et qui va être un avis bienveillant et qui va être un avis qui va nous aider à faire mieux, même quand il est négatif, justement quand il est négatif. Et puis, il ne faut pas non plus chercher l'avis de tout le monde parce que enfin, tous les goûts sont dans la nature, quoi. Donc, si tu commences à faire attention à ce que tout le monde pense et que tu essayes de plaire à tout le monde, tu vas forcément perdre parce que c'est impossible de plaire à tout le monde.
Et qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune ? Si jamais tu devais parler à Marion de 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Je lui dirais de... Ah, je sais pas ce que je lui dirais.
Accroche-toi ou au contraire...
Ouais, continue, je lui dirais...
Continue tout ce que t'as fait, ne change rien.
Bah, je lui dirais, ni l'un ni l'autre, je lui dirais un truc genre... toutes les peurs que t'as, c'est des scénarios que tu te fais dans ta tête. Genre, arrête, tes peurs n'existent pas, c'est toi qui les as inventées. Donc, au lieu de te sentir paralysé par la peur et par les potentialités... Fais les choses, mais plus tôt, tu vois. C'est-à-dire que cet état d'esprit de détermination que j'ai acquis avec les années, j'aurais bien aimé effectivement l'avoir à 15 ans, juste pour voir où j'en serais aujourd'hui, ne serait-ce que dans mon rapport aux autres et dans mon rapport à mon travail, tu sais.
Je suis d'accord. Et dernière question, c'est qui la bosse ? C'est le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Alors, j'aime bien poser cette question. Qu'est-ce que signifie pour toi le succès ? Je sais qu'il est propre à chacun et chacune, mais si tu devais lui donner une définition, laquelle serait-elle ?
Pour moi, le succès, c'est l'endroit où tu te trouves dans ta vie, où tous les rêves que tu as, tu sais que tu peux les réaliser. Où tu n'as plus de rêves qui sont impalpables. Parce que je pense que j'ai les mêmes rêves que quand j'étais adolescente, sauf que quand j'étais adolescente, ça me semblait vraiment être de l'ordre de l'imaginaire. Alors qu'aujourd'hui, ces rêves-là, parce que j'ai acquis cette confiance et que j'ai déjà observé de par mon expérience qu'il existait un public sur cette terre avec qui j'étais en lien et avec qui j'étais connectée, c'est plus des rêves qui me semblent impalpables. Et j'ai l'impression que tu te sens dans cette notion, pour moi, ma notion de succès, c'est ce truc de me dire je suis au bon endroit et tout ce que je veux, c'est accessible. Pas parce que ça l'est beaucoup plus, mais parce que je le rendrais accessible. Les choses me paraissent moins impalpables.
Franchement, j'adore. Ça, c'est pas forcément de les avoir réalisées, mais c'est juste le fait de se dire qu'on peut.
Ouais. Mais non, mais surtout faire le bilan aussi, de me dire ce que je voulais être aujourd'hui, j'ai rêvé de l'être quand j'étais plus jeune. Donc ça veut dire que si jamais j'ai déjà acquis ça, ça veut dire que tous les autres trucs que je vais vouloir être, je vais les rendre accessibles. Tu vois,
ouais.
C'est cette sensation que ça fait pas peur et ça semble pas être trop loin et j'y pense pas avec amertume en me disant oh là là ça va être difficile. J'y pense en me disant j'ai hâte, c'est bientôt.
Génial. Eh bien écoute, le temps file Marion et le podcast touche à sa fin et j'ai aussi l'habitude de le terminer toujours de la même façon. Et s'il y a un dernier conseil, je sais pas, une citation, un mantra, voilà quelque chose qui t'anime au quotidien et que tu aimerais nous partager.
Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée, mais encore une fois, je pense que c'est parce que je suis le genre de personne qui a besoin d'être secouée un peu pour foncer. C'est quand on m'a dit « personne t'attend nulle part ». J'ai passé mon existence à penser qu'un jour, je serais découverte jusqu'à ce que je me rende compte que c'était moi, en fait, qui allais m'auto-découvrir et que je n'avais pas besoin de l'extérieur. Et le fait de me rappeler que personne ne m'attendait nulle part, ça m'a fait me dire, bah, du coup, autant que j'aille partout où j'ai envie d'aller, en fait.
Waouh, c'est trop beau. J'avais jamais entendu ça.
Bah, c'est très... Je trouve que c'est très bien pour se responsabiliser de sa propre réussite. Et comme c'est ce que tu veux faire dans ce podcast aussi, je trouve que c'est important de pouvoir dire, vas-y, va voir le monde comme il est grand et va aux endroits où tu veux aller, que ce soit physiquement ou professionnellement, évidemment, parce que tu n'as... attendre sur tes fesses n'apportera jamais rien de particulièrement positif.
Canon. Bah, écoute, on va se quitter sur ces belles paroles. En tout cas, c'est très joliment dit. Merci mille fois pour ton temps. Je sais qu'il est précieux. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé ce petit moment avec toi, d'en avoir un peu plus appris sur ton parcours aussi. Et puis, j'espère pouvoir te rencontrer dans la vraie vie.
J'espère que la vraie vie va reprendre. Ouais. Merci mille fois pour ton invitation et tes questions si intéressantes.
Voilà les filles, ma discussion avec Marion est maintenant terminée. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse.